Et c'est avec Isabelle Morizet et le réalisateur, producteur et scénariste Jean-Jacques Haneau que se poursuit la soirée. C'est « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Et vous verrez que pour le cinéaste, réalisation rime depuis toujours avec vocation. Très belle soirée sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour. Il est sans conteste le dernier grand aventurier du 7e art, vivant chaque film comme l'œuvre d'une vie, obstiné, insatiable, revenu de tous les combats et animé d'une curiosité et d'une capacité à rêver intacte. Sa filmographie, un Oscar et 4 Césars, a marqué le cinéma mondial. La Victoire en chantant, La Guerre du Feu, Le Nom de la Rose, L'Ours, L'Amant, 7 ans au Tibet, Stalingrad, Deux Frères, L'Or Noir, Le Dernier Loup. Jean-Jacques Haneau, puisqu'il s'agit de lui bien sûr, est en effet un explorateur, un historien, un fabricant de rêves dont la vie se confond à l'épopée du cinéma. Et Jean-Jacques Haneau se livre dans un ouvrage passionnant, Une vie pour le cinéma, paru chez Grasset. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Je suis ravie de vous accueillir.
Moi aussi, je suis très heureux d'être là.
Jean-Jacques Haneau, avant toute chose, pourquoi tous ces malentendus avec le cinéma français? Comme le dit Roman Polanski, vous êtes un globe-trotteur peut-être à l'étroit en France et à l'aise au large.
J'ai été très gâté car j'ai fait les écoles de cinéma très tôt. Je suis sorti à 20 ans et à 19 ans et demi, j'ai eu mon premier chèque de metteur en scène. Et j'ai fait beaucoup de films publicitaires.
Ouais.
Et d'une certaine manière, vis-à-vis d'une certaine presse en France, j'étais mal né parce que je n'étais pas critique au cahier du cinéma, mais je faisais du...
Ça n'était pas noble de démarrer par la pub.
Non, parce que c'était cracra. On pensait que vendre des produits, c'était honteux. Sauf que moi, j'ai continué à apprendre mon métier. J'ai tripoté absolument à tout, à tous les genres. Je fais des comédies musicales, j'ai fait des films de poursuite de voitures, j'ai fait des films sous-marins, j'ai fait des films en hélico. Enfin, si vous voulez, je suis arrivé dans le cinéma avec d'abord un avantage, c'est que je ne cherchais pas à faire des succès, je cherchais à faire un film qui me soit très personnel.
Donc, oui, mais alors pourquoi les critiques français, souvent, ont boudé leur plaisir face à vos films?
Mais parce que ça ne répondait pas, je crois que d'abord... Respectons les critiques, je l'ai été moi-même sous un autre nom, donc je sais très bien qu'il y a une certaine lassitude à voir trop de films et qu'on ne sait plus juger de ce qui va peut-être entraîner le public parce qu'on lui montre quelque chose de différent et on lui parle d'une manière différente. Et j'ai commencé avec un film qui était un film en fait assez politique, qui parlait de la colonisation française. Et
L'avenir en chantant.
Et il était inacceptable qu'un type qui faisait des films publicitaires se mêle de faire un film finalement politique.
Et décroche un Oscar. L'Oscar du meilleur film étranger.
Oui, c'est-à-dire que j'ai été sauvé par Hollywood.
Alors, on va évoquer tout ça très généreusement, parce qu'elle est follement romanesque, votre vie, Jean-Jacques Haneau. Mais je voudrais qu'on débatte un tout petit peu du cinéma, parce que depuis longtemps, vous vous interrogez sur l'avenir, justement, du cinéma. Aujourd'hui, les films sont vus sur ordinateur, en streaming, ou piratés, d'ailleurs, quand c'est pas d'ailleurs sur un iPhone. Et en face, y a la télévision qui produit des séries qui ressemblent de plus en plus à des films. Donc, très bientôt, le cinéma ne vivra plus dans les salles de cinéma.
Mais si vous voulez, il faut comprendre l'évolution de la technologie. Autrefois, même quand j'étais enfant, le seul endroit où on pouvait voir un film d'une manière décente, il y avait bien la télévision, mais on appelait ça l'étrange lucarne. Parce que c'était une espèce de boîte en bois, et puis il y avait un hublot en noir et blanc tout rayé. Alors évidemment que c'était moche, mais aujourd'hui... on peut, pour un prix raisonnable, pour le prix de, mettons, 5 séances de cinéma en famille, avoir un home cinéma avec un écran parfaitement net, une colorimétrie parfaite et un son impeccable. Donc, évidemment, ce qu'on ne remplace pas, c'est le fait de voir un film ensemble, avec un public. Mais il est quand même parfois très agréable d'être chez soi, dans le confort de sa maison, de regarder ça sur un grand écran, voire sur un écran de son ordinateur, qui lui aussi est un bon écran. Et rappelons que quand on est dans une salle de cinéma, on n'a pas la totalité du champ de vision couvert. Parce que si vous êtes à l'arrière,
bien sûr,
c'est, votre angle est à peu près de 10 degrés. Devant votre ordinateur, vous couvrez votre champ visuel.
Alors, ordinateur ou télé? Parce
même...
que j'ai appris, justement, en plongeant dans votre livre, que Martin Scorsese s'est lancé dans les séries pour la télé, Woody Allen aussi, Paolo Sorrentino également, avec cette histoire de pape complètement déjantée, interprétée par Jude Law. Donc maintenant, les plus grands cinéastes qui tous font des séries, comme vous venez d'en signer une qui en ce moment est diffusée sur TF1 et dont la résolution aura lieu mercredi prochain, eh bien, on ne peut pas parler d'histoire de gros sous. En fait, ça donne des indices sur la révolution qui est en train d'arriver. Le cinéma...
Il y a une panique à bord à Los Angeles, vous savez, à Hollywood.
Ah, carrément.
Ah bah oui, oui, les studios traditionnels, d'abord, sont en mauvaise posture, parce que le drame est que il y a un autre phénomène qui s'ajoute à la technologie, c'est la piraterie. Quand vous avez un film international qui va coûter au-delà de 200 millions de dollars aujourd'hui, ce sont les prix, il faut se souvenir que pour sortir ces films-là, il faut remettre dans le pot au moins autant pour la promotion, sinon parfois le double. Et que dès les premiers jours d'exploitation, ce film est visible sur le net, gratos. Et que ce n'est plus comme autrefois des gens qui filment la salle de cinéma avec les spectateurs au premier plan qui fument, qui se lèvent, etc. comme autrefois. Non, ça sort du labo. C'est-à-dire que vous avez une qualité parfaite.
Et le piratage, il n'existe pas en télévision. Une série pour la télé n'est pas piratée.
Non, parce que vous avez le streaming qui suit tout de suite après. Moi, je vois pour Harry Kéber, les gens qui n'ont pas eu le temps de voir les épisodes le mercredi soir vont le voir à leur convenance le samedi. C'est accessible et c'est gratuit aussi, parce que c'est payé d'avance ou c'est payé par la publicité. Donc, si vous voulez, c'est une économie nouvelle. Sur les chaînes comme Netflix, les gens payent.
Ouais.
Du coup, c'est une économie, j'ai envie de dire, tout à fait honnête. Car vous recevez, vous metteurs en scène, enfin, les producteurs ou les metteurs en scène, nous recevons la somme nécessaire pour faire le film que nous avons envie de faire.
Alors, vous n'avez effectivement pas raté le train de l'époque et vous êtes lancé dans l'aventure de votre toute première série pour la télé, adaptée du best-seller La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et j'ai appris une chose folle, Jean-Jacques Haneau. Il paraît que l'éditeur de ce best-seller, Bernard de Fallois, a envoyé au plot Spielberg en personne, qui lui aussi voulait adapter le roman, c'est ça?
Oui, mais c'est un peu plus complexe avec Spielberg. Il ramasse tout, il achète tout pour que les autres ne le fassent pas. Ce n'est pas très gentil, mais c'est un bon commerçant et c'est un homme de grand talent aussi. J'ai envie de dire, c'est surtout un homme de grand talent, mais c'est sa technique. Sa société achète, et ils ne font pas les films. Et le vieux bonhomme de Fallois, qui était une légende de l'édition, qui est grand cinéphile...
Il était méfiant. Il s'en est
douté. Il a tout de suite compris le truc. Il a reçu tout un tas d'appels de Los Angeles. Oui, on est la société machin. On veut vous acheter les droits. Et qui va le mettre en scène? Ben, on verra. Et pourquoi vous l'achetez? Ben, parce que ça a du succès. Ben non, il voulait quelqu'un qui avait une nécessité organique de porter ce film. Je dis ce film parce que pour moi...
Oui, mais d'ailleurs, les images sont des images de cinéma. Et c'est ça qui est tout à fait bluffant. Dès les premières images que j'ai vues sur TF1, je me suis dit... voilà, elles sont signées par un cinéaste. C'est du cinéma avec la richesse justement des angles, des axes, la lumière, la profondeur de champ, le rythme, le montage. C'est du cinéma, mais à la télé.
Oui, mais j'ai vraiment, je me souviens avec mon chef opérateur, on se disait, mais c'est drôle parce qu'on fait exactement comme si c'était un film. C'est,
mais découpé que c'est un en film, fait en 10 fois 52 minutes.
Oui, c'est un film de 8h30
voilà.
Que l'on présente en 10 morceaux.
Mais alors, ce roman policier, l'affaire Harry Kéber, il a donc été dévoré d'abord par 3 millions de lecteurs. Il ne fallait pas les décevoir et puis il fallait fasciner aussi ceux qui ne l'avaient pas lu. Donc, vous avez choisi Patrick Dempsey, ex-héros de Grey's Anatomy, et vous avez tourné au Canada en 81 jours. Vous dites ce film de 8 heures, c'est-à-dire en fait 10 fois 52 minutes, alors que normalement, pour tourner un film à peu près d'une heure et demie, il vous faut 120 jours. Donc tout de même, la télé, c'est une course folle.
Oui, mais c'est ce que je voulais. Parce que,
pourquoi ?
Eh bien parce que je me suis aperçu depuis très longtemps que, en fait, c'est toujours la répétition qui est la plus... instinctives, et que la première prise est déjà moins bien que la première répétition. Que la répétition, mais enfin, il y a l'émotion de la première.
Mais souvent, oui. C'est ainsi.
Alors, il y a des metteurs en scène comme Kurosawa ou Clint Eastwood.
Qui font 40 prises?
Non, ils font une prise. Non, c'est Scorsese qui fait 75 prises.
D'accord.
Mais, oui, mais ça épuise, à mon sens, ça épuise les acteurs et ça fait un jeu plus mécanique. Et je m'étais aperçu dès les films publicitaires, que c'était quand j'avais plus le temps du tout, que j'étais amené à dire, bon, il nous reste un quart d'heure, alors on y va, on fait ci, on fait ça, et que tout le monde avait cette espèce d'énergie parce que les comédiens devaient partir au théâtre, et que c'était les meilleurs moments, c'était les meilleures choses que je faisais. Et dans mes longs-métrages, je me suis souvent aperçu qu'effectivement, c'était la première prise qui était la meilleure. J'ai eu une expérience formidable sur Coup de tête, mon deuxième film avec Patrick Devers.
Oui.
Mon producteur, qui était Alain Poiret de chez Gaumont, qui était une légende du cinéma, était étonné que je consomme tant de pellicules. Alors je lui avais dit, mais vous savez, je viens du film publicitaire, on fait beaucoup de prises, parce que ça demande beaucoup de rigueur, donc il y a des problèmes de synchronisme qui sont difficiles à régler en publicité. Il m'a laissé avoir le film que je voulais, la quantité de pellicules. Après avoir vu le film, l'avoir approuvé, l'avoir beaucoup aimé, il me dit, mon cher Jean-Jacques, accepteriez-vous que je garde votre assistante monteuse pendant 2 jours? Je serais curieux de savoir quelle prise vous avez utilisée. Eh bien, 60% du film, c'est la première prise.
Première.
Et qu'après, je suis monté des fois à 15 prises. Jamais j'utilisais la prise 15. Parce que, en fait, on recommence pour des raisons techniques idiotes. Il y a un reflet, dit le caméraman. Il y a un petit reflet dans la vitre au fond, mais personne.
Mais c'est toujours l'émotion qui prévaut.
Oui, je suis un très mauvais caméraman parce que je ne regarde que les yeux de mes acteurs. Et j'oublie qu'il faut panoramiquer, donc je laisse faire les gens compétents.
Dans un instant sur Europe 1, la suite de cet échange intime entre Isabelle Morizet et le cinéaste à la renommée mondiale, Jean-Jacques Haneau. Il nous racontera son enfance et sa première rencontre avec le cinéma.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Restez avec nous jusqu'à 22h. Isabelle Morizet s'entretient avec Jean-Jacques Haneau dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
La guerre du feu, le nom de la rose, Stalingrad. Les deux frères s'étant au Tibet, l'amant, c'est à lui qu'on doit ses émotions sur grand écran. Jean-Jacques Haneau. Alors Jean-Jacques Haneau, vous souvenez-vous de ce moment curieux, l'année de vos 6 ans, où vous avez plongé dans un abîme de mélancolie parce que soudain, alors que vous étiez assis seul sur la balançoire du jardin, sous un ciel un peu gris, vous vous êtes demandé si, franchement, la vie, ça allait être tout le temps comme ça, une espèce de tunnel de monotonie sans fin, sans perspective, sans magie. Et il paraît que c'est vraiment à ce moment-là que vous avez pris conscience que vous alliez furieusement avoir besoin de vous évader.
Oui, et l'évasion, c'était entre papa et maman, au Draveil Palace, qui était un vieux cinéma avec un grand écran un peu sale. Mais on m'emmenait là le dimanche, voir les films qui étaient recommandés dans la revue La Vie du Rail, parce que mon père était cheminot, il était à la SNCF, et donc la seule revue que nous recevions à la maison, c'était ça. Il y avait un très bon critique qui s'appelait Charansol d'ailleurs, et qui recommandait pas du tout les films américains. Il détestait les films américains, donc je n'ai pas vu de films américains.
Vous n'avez pas de culture cinématographique américaine,
non,
à cause
pas
de
du
lui.
Tout. Comment imaginer que moi, je puisse après passer une partie de ma vie à Hollywood? C'était inconcevable, ça ne me plaisait pas. Ce qui me plaisait, ce qui plaisait à mes parents, c'était les films italiens de l'époque, les films russes, les films japonais. On m'emmenait voir ça en banlieue. Et j'étais fasciné parce que l'écran s'ouvrait et je savais que ça n'allait pas être comme dans ma rue, qui menait un peu nulle part. Là, on me faisait voyager, on me faisait rêver et on m'apprenait des choses. Je me souviens, je descendais parce que nous habitions en bas de la petite colline de Draveil. Et je me précipitais sur l'encyclopédie Larousse et j'essayais de comprendre et de développer ce qu'on m'avait appris dans le film. Et donc, si vous voulez, c'était merveilleux, c'était un monde merveilleux. Et donc, très vite, j'ai eu envie, comme j'avais des cousins...
Mais oui, parce que deux cousins un petit peu plus âgés que vous, hein, mais qui chacun avaient des caméras 8 mm, 9 mm 5, c'est
oui,
ça
oui,
et
oui.
Qui, en fait, faisaient leurs petits films qu'ils projetaient en famille.
Voilà, et moi, je me disais, mais alors, si mes cousins peuvent faire ça, moi aussi, puis je peux faire un peu comme je vois sur le grand écran du Draveil Palace. Et j'ai dit ça à ma mère, j'avais 8 ans, 9 ans, je ne sais plus trop.
Alors justement, attention, 9 ans, c'est l'année cruciale. Cette anecdote, il faut nous la conter, mais elle semble irréelle. Vraiment, elle est véridique, c'est insensé. Ce premier rendez-vous, Jean-Jacques Haneau, que vous avez obtenu avec le directeur de la plus prestigieuse école de cinéma de l'époque, l'IDEC, aujourd'hui devenue la FEMIS, bah voilà, vous n'aviez que 9 ans, vous étiez en culotte courte, avec, paraît-il, des chaussettes qui tire-bouchonnaient, et le directeur de cette grande école pensait, lorsqu'il vous avait accordé ce rendez-vous, parce que c'est votre maman qui avait téléphoné, qu'il allait recevoir donc un étudiant bac plus 3 ou plus 4, c'est
oui,
ça
oui, oui, mais d'ailleurs il parlait à ma mère en disant « Alors, mais votre fils est à quel niveau ?» Alors elle se tourne vers moi et il voit ce petit garçon avec des chaussettes blanches dont l'élastique était cassé sur la jambe droite. Et je n'arrêtais pas de remonter ma chaussette. J'étais très embêté d'être devant le directeur de cette prestigieuse école avec une chaussette qui tombe. Et il n'a pas cru.
Oui, il a cru que c'était une mauvaise plaisanterie.
Il a explosé de rire. Et à l'époque, il avait un bouton sur son bureau, un bouton électrique. Il appuie dessus et arrive une dame qu'on me présente comme la directrice des études. Mademoiselle Nicolas, elle parlait comme ça, avec ce livre dans la bouche. Et elle lui dit, regardez, il y a un petit enfant là, il veut faire du cinéma. Elle se met à rire. Elle dit, oh, mais c'est pas possible, que c'est drôle, que c'est amusant. Mais mon petit garçon, pourquoi vous voulez faire du cinéma? Donc j'explique le Draveil Palace, mes cousins avec les caméras.
Et on vous donne une feuille de route.
Oui,
en fait.
Et il dit à ma mère, bon, bah, écoutez, il faut que ce petit fasse, évidemment, le cinéma, c'est l'art de raconter des histoires, donc il faut qu'il soit bon en littérature, donc il faut qu'il fasse des études classiques.
On vous a recommandé d'ailleurs de faire du latin-grec,
latin
c'est ça
et grec, évidemment.
Et puis ensuite, une année de mathématiques élémentaires, et puis ensuite d'intégrer l'école de Vaugirard,
oui.
Et votre maman, elle notait tout
en
sténo.
Oui, absolument. Et donc, bah, finalement, j'ai absolument suivi la feuille de route. Et ça a été tellement facile du coup, parce que j'ai passé le concours de l'école de Vaugirard, qui s'appelle aujourd'hui Louis Lumière, j'ai été reçu major, parce que j'avais déjà lu plein de livres sur comment on faisait du cinéma, sur les optiques, sur la sensitométrie de la pellicule, je suis arrivé à l'école, je savais déjà plein de trucs.
Mais alors ce qui est insensé, Jean-Jacques Hano, c'est que précisément 10 ans plus tard, vous revenez. Alors bien évidemment, on ne peut pas reconnaître le bout de chou de 9 ans. Vous revenez, vous avez tous vos diplômes en poche, tout ce qu'on vous avait demandé de faire, et vous sortez majeur de cette école. Et là, bah, il ne vous reconnaît pas tout de suite, le
mais
directeur
non, bien sûr
de
l'IDOC,
n'est-ce pas?
Il me dit que je prends rendez-vous avec le directeur en lui disant que j'étais à Vaugirard, c'est-à-dire que je n'étais pas n'importe quel étudiant qui voulait faire du cinéma. Il me reçoit et je lui dis, monsieur, je vous ai déjà rencontré, j'étais tout petit, j'étais venu avec ma maman. Il me dit, c'est vous qui avez la chaussette qui tombe? Et il rappuie sur le bouton.
Il rappelle
il y a
fameuse...
la madame, mademoiselle Nicolas arrive. Oh, mais moi, c'est pas possible, alors, ce petit garçon, il a de la chute dans les idées. Et alors, le truc, c'est que mon père était malade et ne pouvait pas, il était au bord de la retraite et ne pouvait pas d'ailleurs continuer, donc il n'y avait plus d'argent à la maison.
Ouais.
Et je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, écoutez, moi je vais rentrer en seconde année de Vaugirard, mais de Louis Lumière, mais je voudrais intégrer la FEMIS, mais pas en section photographie, puisqu'il y avait un accord entre ces deux écoles. Quand on était diplômé de Louis Lumière, on pouvait rentrer en deuxième année de prise de vue.
Vous vouliez devenir réalisateur.
Mais oui.
Donc vous vouliez la
dit,
section réalisation. Et en plus, vous avez même fait un caprice. Vous vouliez rentrer directement en deuxième année
oui.
de réalisation.
Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, mon père est malade, et moi, je veux être réalisateur. Et alors, il m'a dit, bon, bah, écoutez, c'est très simple. Hein. Je vous demande un certificat de licence, au moins. Je vous demande un court-métrage en 35 mm d'au moins 30 minutes. Et je vous demande d'avoir au moins la mention « bien » au BTS, c'est-à-dire Alex, et que vous soyez évidemment diplômé de Vaugirard et que vous soyez major. alors évidemment, après, je suis arrivé au mois de juillet avec mes boîtes de films, le certificat de licence, le BTS avec mention bien, le diplôme de Vaugirard, et je suis rentré effectivement à la FEMIS en deuxième année.
C'est extraordinaire.
Et mademoiselle Nicolas, elle m'a appelé en mois de juin en me disant, il y a un ancien élève qui est malade, est-ce que vous voulez bien le remplacer? Il est assistant sur un film publicitaire.
Alors, et c'est ainsi que vous avez démarré?
Ouais.
Mais c'est follement romanesque. Voilà, c'est un scénario de film. Vous ne rêviez que de cinéma, Jean-Jacques Hano. Bah, vous n'avez pas commencé exactement par le cinéma, en fait. Vous avez commencé par la pub. On va un petit peu creuser ce sillon-là. À tout de suite.
Suivre sur Europe 1 dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, Jean-Jacques Hano nous racontera ses premiers tournages avec des animaux pour la publicité et ses échanges passionnés avec François Truffaut.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, c'est Il n'y a pas qu'une vie dans la vie et la conversation se poursuit entre Isabelle Morizet et Jean-Jacques Hano qui nous raconte sa passion pour l'image et ses débuts.
Alors cher Jean-Jacques, je reprends le fil de l'histoire. Quand vous êtes sorti major de promo donc de l'IDEC, la plus grande école de cinéma, Vous n'avez pas eu accès immédiatement au cinéma, vous êtes d'abord passé par, j'ai envie de dire, le purgatoire de la pub. Alors, vous avez ainsi appris à vendre une idée, vous avez appris à tourner avec des chats, des chiens, des éléphants, des chameaux, des poissons rouges, un perroquet, même un hippopotame d'ailleurs, et puis bien sûr des enfants, ce qui n'est pas le plus simple. Mais bon, en 30 secondes, même si ça apprend la concision, ça laisse quand même peu de place au lyrisme, tout ça, à la poésie, et puis ça laisse aucune place d'ailleurs à l'épopée. Donc, en devenant vraiment virtuose dans la pub, on finit par tourner roi du gag.
Bien sûr, on n'a pas d'autre possibilité que de faire un spectacle par soit la beauté, soit l'inventivité des images, ou un gag. Vous ne pouvez pas émouvoir en 20 secondes. Donc j'ai été pendant des années en manque de lyrisme. Et en manque, si vous voulez, d'épopée, oui, bien sûr.
Mais alors, juste pour rester un petit moment sur la pub, à l'époque, tout de même, dans ce domaine-là, vous aviez pour concurrent Ridley Scott, futur réalisateur d'Alien, de Gladiator, de Blade Runner et de Seul sur Mars.
Et qui reste un pote.
Ah, c'est un pote.
Et il y a un an, on a eu un projet ensemble. Il est venu passer une semaine à Paris. On a discuté d'un projet en Afrique. Mais malheureusement, ce n'était pas l'Afrique que je connaissais. C'était une Afrique hollywoodienne et donc j'ai décliné.
Mais d'ailleurs, en évoquant Seul sur Mars, Jean-Jacques Annaud, je réalise que le seul univers que vous n'avez pas exploré dans vos films, c'est l'espace.
Oui, parce que pour l'instant, je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine et qu'il y a une certaine banalité à faire des films sur le futur. Ça me tente, ceci étant.
C'est vrai ?
Oui, oui, bien sûr. J'y réfléchis. Mais vous savez, j'aime pas me lancer dans un film en pensant que les spectateurs en ont vu 2000 similaires.
C'est-à-dire que l'espace, maintenant, on le livre toujours en blockbuster formaté, c'est ça ?
Mais bien entendu. Vous savez, mon compositeur James Horner, qui a fait Titanic, il n'en pouvait plus de Hollywood, parce qu'il me disait, mais comment veux-tu que je fasse de la musique pour des monstres verts qui se battent contre des grenouilles bleues ?
D'ailleurs, vous avouez dans le livre qui vient de paraître chez Grasset que, en fait, la qualité moyenne de tous les grands films hollywoodiens est en train de baisser.
Oui, parce que ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de place pour les films dits intermédiaires. Vous avez les films dits de festival, qui ont une économie bien particulière. Les gens reçoivent des subsides gouvernementaux pour faire des films de qualité. Et du coup, il n'y a plus ces fameux films intermédiaires qui ont fait la grandeur de tous nos cinémas, que ce soit le cinéma français ou le cinéma américain. Souvenons-nous, pour parler en France, des films de Gérard Oury, par exemple. Alors, évidemment, ce n'est pas un auteur qui a été honoré par la critique. Mais ce sont des films qui ont voyagé dans le monde entier. Vous savez, moi, quand je suis allé voir Gorbatchev avec Pierre Richard et que Gorbatchev, nous voyant arriver, enlève sa chaussure et l'embrasse parce qu'il connaissait la filmographie de Pierre Richard par cœur, et il y avait Depardieu à côté.
Non, mais la scène est extraordinaire,
c'est Depardieu, magistral. Il ne savait pas qui c'était, il croyait que c'était moi l'acteur célèbre et il m'embrasse aussi chaleureusement. et il ne nous parle que de Gabin et de Louis de Funès. Donc, si vous voulez, il y a un décalage fou entre ce qui a fait la puissance du cinéma français à l'étranger, le rayonnement de la culture française, et ce qu'on a cru qui était le rayonnement de la culture française en faisant des films qui passent dans les ciné-clubs. Donc, c'est autre chose. Et les ciné-clubs disparaissent. Il y avait un article formidable dans le New York Times il y a quelques années. Ça s'appelait « Cinéma d'art, deux points, un problème de cheveux ». Alors, je lis l'article. Il disait que dans les salles d'arrêt d'essai, il n'y avait que des chauves ou des cheveux blancs. Et que les propriétaires étaient dans le même cas, et quand ils mouraient, la salle fermait. Et ça devenait un supermarché. Donc, si vous voulez, il y a ce problème. C'est très politiquement incorrect ce que je dis là. Ça va me valoir encore des volets de bois vert.
Mais parlons librement.
Donc, si vous voulez, il y a un vrai problème. Et je suis moins malheureux que les films dits de festival n'aient plus de public. C'est dramatique parce que moi, j'allais, en tant qu'élève de cinéma, au Festival de Cannes dans les années 70, mais c'était merveilleux. C'était des films formidables et des films populaires en plus, de très grande qualité intellectuelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de contenu. Les films à contenu sont des films politiquement corrects la plupart du temps.
Alors justement, je reprends le fil rouge de votre histoire et je voudrais évoquer Truffaut. Puisqu'on parle justement de ceux qui font des films sur la quête de sens. Truffaut qui, en fait, sur votre chemin, a provoqué, malgré lui, une espèce de petit miracle. Vous étiez un réalisateur de pub. Vous en aviez assez. Vous vouliez vraiment vous lancer enfin dans le cinéma. Et voilà qu'un beau jour, alors que vous aviez réalisé un spot de démonstration pour un film de Costa Gravas, voilà qu'un beau jour, François Truffaut vous téléphone, et puis d'une voix comme ça timide, il vous dit « Bon, j'ai regardé vraiment de très très nombreuses fois votre bande-annonce sur ma table de montage, et alors je suis complètement intriguée parce que j'arrive pas à voir où vous mettez vos points de coupe. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, s'il vous plaît, Jean-Jacques Haneau, comment vous montez vos films ?» Oui, c'est magnifique, c'est hallucinant. Tout s'est enchaîné à partir de ça, quoi. Claude Berry, Jacques Perrin, soudain, tout le monde vous a réclamé.
Oui, parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que Costa Gavras avait fait un film, ça s'appelait Section spéciale, et il ne voulait pas une bande-annonce ordinaire. Donc, il s'est dit, et si je faisais faire un film publicitaire ? Et donc, il s'est renseigné, et on m'a prié d'envoyer ma bande de démonstration, où il y avait une trentaine de pubs. Et... finalement, Costa Gavras a vu cette bande, et comme il était copain avec François Truffaut, il lui a dit « Il faut que tu viennes voir un truc, là c'est incroyable, ce type il raconte des histoires très compactes, c'est rigolo, etc. » Et effectivement, François Truffaut m'appelle, alors je me souviens, j'étais en train de courir pour partir sur un studio, le téléphone sonne, j'entends « Bonjour, c'est Monsieur Truffaut ». Moi, je crois que c'est le marchand de graines, hein, c'est dans la pub. Donc, mais non, alors je dis « Est-ce que c'est le marchand de graines ou le metteur en scène ?» Il me dit « Non, c'est le metteur en scène, etc. » Et donc, je l'ai rencontré, je lui ai expliqué effectivement que, je me souviens, je lui ai dit « Mais vous savez, la différence, c'est que moi, si je veux raconter quelqu'un qui s'ennuie à table et qui part pour rentrer chez lui, vous allez faire la chose suivante. Vous allez voir qu'il s'ennuie, ça va être un plan assez long. Ensuite, il va dire courtoisement au revoir à tout le monde. Il va ouvrir la porte, fermer la porte, appeler l'ascenseur, attendre l'ascenseur, rentrer dans l'ascenseur, fermer la porte de l'ascenseur, descendre, prendre les clés de sa voiture, ouvrir la porte de sa voiture
et là, c'est le spectateur qui s'ennuie.
Oui. Et là, je lui dis, mais vous savez ce qu'il faut faire ? C'est simplement, il a sorti les clés, il est à table, il tripote les clés de sa voiture. Et maintenant, il y a sa voiture qui s'en va. Ben, on a compris. Et donc, si vous voulez, ce qu'on apprend dans la pub, c'est l'ellipse.
Non, mais c'est formidable. Cours de montage et d'ellipse
oui,
à François Truffaut.
Et Truffaut me disait, il m'a souvent invité à voir ses films parce qu'il me disait aussi une chose incroyable.
Il vous demandait si le montage était bien ficelé.
Oui, puis après, il me demandait sur la photo parce qu'il me disait, moi, j'y comprends rien du tout à la photographie. Il avait un chef opérateur formidable, il s'appelait Almendros. Mais... souvent, il me faisait voir ses films pour ça, pour me demander ce que je pensais de la photographie. Parce qu'il était littéraire. Et moi, j'ai démarré avec l'image. J'ai démarré à 7 ans, j'ai eu mon premier appareil photo, et j'ai fait des milliers de photos dans ma vie. Des dizaines, des centaines de milliers de photos.
C'est pour ça que vous préférez le cinéma visuel plus que dialogué.
Mais parce que c'est la racine
bien
même
que
du cinéma.
Bien vous soyez un littéraire.
Oui, mais il faut raconter des histoires avec des images, sinon on fait de la radio. Europe 1.
Dans un très court instant, Jean-Jacques Haneau continuera de se confier au micro d'Isabelle Morizet. Il nous parlera du tournage de La Guerre du Feu et d'un coup de pouce inattendu.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Soirée, il est 21h35 et on retrouve nos deux comparses Isabelle Morizet et Jean-Jacques Haneau dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors cher Jean-Jacques, bon, il est très rare de décrocher un Oscar pour son premier film. C'est pourtant ainsi que vous avez intégré le monde du cinéma avec La Victoire en chantant. Plutôt méconnu en France comme film, mais Oscar du meilleur film étranger en 77. Mais en fait, c'est court, une heure de conversation avec vous. Alors, plutôt que de suivre vraiment bon la chronologie, je voudrais tout de suite qu'on évoque l'aventure complètement folle du premier film qui vous a véritablement donné une dimension internationale, c'est La Guerre du Feu. Ce sujet fabuleux, il paraît qu'il a jailli complètement par hasard au cours d'une rencontre avec le scénariste de Polanski, c'est ça ?
Oui, Gérard Brache, oui, bien sûr, qui est devenu mon scénariste, ainsi que celui de Roman. Je suis resté extrêmement ami avec Roman. D'ailleurs, j'étais avec lui en Pologne la semaine dernière. Et nous nous connaissons bien parce que nous partageons cet homme tout à fait remarquable. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'est à l'initiative de Claude Berry,
ouais,
qui lui avait donné un livre, et à moi aussi, qui se passait dans le Grand Nord, et c'était l'histoire d'un Indien et de son loup.
Donc, rien à voir avec La Guerre du Feu ?
Non. Et puis, au moment de partir, je lui dis ben, « Non, j'aime pas trop ce livre. » Il me dit « Ça tombe bien, moi non plus. Ben, » On laisse tomber. Et je lui dis « il y a un truc qui m'a bien plu, c'était la peur préhistorique du héros. Il me dit, est-ce que ça te plairait de faire un film sur la préhistoire? Alors je dis, j'en rêve. Il enchaîne, il me dit, as-tu lu La Guerre du Feu? Ah, je lui dis, oui, dans Mickey, quand j'avais 4 ans. Et il me dit, assieds-toi. Il me dit, le truc impossible, c'est le langage. Et je lui réponds du tac au tac, on en inventera un. On va inventer un langage plausible. Mais il me dit, on va faire quoi? Alors, on va le sous-titrer? Je dis, non, on ne va pas le sous-titrer. On va raconter l'histoire et les gens vont comprendre.
Et pour ça, justement, quand vous avez commencé à vous lancer véritablement dans le projet, eh ben vous avez demandé à Anthony Burgess, l'auteur d'Orange Mécanique, d'inventer, alors on ne va pas dire véritablement un langage, mais
si,
les prémices,
si.
les premiers mots peut-être de la communication humaine entre des hommes qui vivaient à peu près 50 000 ans avant Jésus-Christ,
Oui, en fait 80 ou même 100, ou peut-être 150 000 ans, sur le générique c'est marqué 80 000, mais aujourd'hui les dates ont reculé, c'est plutôt 300 000.
D'accord.
Et si vous voulez, les hommes...
Mais ce sont les mots, par exemple quand on dit « atra »,
ben oui, mais je me souviens, Anthony Burgess.
Ce sont des mots qui ont une véritable raison d'être dans votre film.
Mais bien sûr, parce que c'est l'âtre et que c'est une racine que l'on retrouve dans les langues germaniques et dans les langues latines. On a hésité entre quelque chose qui ressemble à feu, fuego, ou à fire. Mais on a finalement choisi Atra.
Mais alors, là, on parle de ce langage, mais quand même, les difficultés pour monter La Guerre du Feu, elles ont été hallucinantes. Bon, puisqu'Hollywood vous avait donné un Oscar, vous êtes tourné vers Hollywood pour produire La Guerre du Feu. Mais jamais un film n'aura subi autant de désistement, d'abandon, de remaniement de scénario, de valse des producteurs, de problèmes d'assurance, de retournement de veste des décideurs. Tout ça couronné d'ailleurs par, peu de temps avant de démarrer le tournage, une méga grève du syndicat des acteurs à Hollywood. Comment on se retient d'étrangler les gens quand ça dure plusieurs années? Parce que ça a duré plusieurs années.
Mais ça a duré jusqu'au dernier. J'ai survécu à 7 présidents différents. Et à chaque fois, il fallait que je réexplique mon film. Et 15 jours avant la sortie du film, je dîne avec le nouveau président et j'étais à côté de sa femme. Alors elle me dit, mon mari, il ne savait pas trop s'il fallait sortir ce film, puis il avait décidé de ne pas le sortir. Alors donc j'apprends, moi, que mon film ne devait pas sortir. Et elle dit, puis finalement, il a dit, on va le montrer à Franck, et puis Franck a adoré, et finalement, on a décidé de le sortir.
Je dis, à quoi ça tient?
Je dis, qui est Franck? Elle me dit, Sinatra.
Oh, non. Et,
mais oui, je dois...
Donc vous devez,
une partie de ma carrière à Franck Sinatra.
À Franck Sinatra, c'est merveilleux. C'est un scoop absolument extraordinaire. Vous ne l'avez pas dit dans votre livre, hein,
Jean-Jacques Hanau? Non, mais parce qu'il faisait 800 pages, on a été obligé de couper.
Extraordinaire. Alors, vous avez sélectionné 18 éléphants d'Asie pour cette guerre du feu. Vous avez entraîné pendant 6 mois à porter des moulages de défense en polystyrène et puis des capes poilues en crin de cheval pour ressembler à des mammouths. Mais alors, sur le tournage
en crin de yak,
pas de cheval, en crin de yak, voilà, pour ressembler aux mammouths. Mais sur le tournage en Écosse, avec vos faux mammouths, vous avez vécu des choses à peine croyables.
Quand vous parlez de cette scène avec les mammouths, je reviens à Gérard Brache, mon auteur. Nous travaillons ensemble, nous racontons une scène où un troupeau de mammouths défend les 3 héros du film qui sont à la recherche du feu qu'ils ont perdu, qui leur a été volé. À l'époque, ils ne savent pas le faire. Et ils sont encerclés par des anthropophages. Mais heureusement, surgit un troupeau de mammouths qui les prend à la bonne et qui les sauve. Je veux rêver d'abord.
Sauf que le troupeau de mammouths, en réalité, sur le lieu du tournage, un jour, il a chargé, il a défoncé absolument toutes les tentes, il a écrasé le matériel.
3 jours de suite,
oui. C'était une folie totale.
Mais oui, parce qu'on m'avait dit, le dresseur d'éléphants m'avait dit, écoute, c'est très simple, ils sont tous amoureux de la même éléphante. Donc tu mets cette jolie femelle à côté des caméras, ils vont tous courir, et ils font ça toute la journée, ils lui courent après. Et donc, ce jour-là, c'était en Écosse, il faisait froid, c'était au mois de novembre, et je fais tout comme on dit, et effectivement, la femelle barille, les éléphants sont comme des fous, ils barrissent, on décroche leurs pieux. Et il court, mais pas vraiment vers la femelle, il court vers une petite tente dans laquelle il y avait tout notre matériel de cinéma. Toutes les caméras, les boîtes, les objectifs.
Toutes les caméras.
Et les 18 éléphants...
sont passés dessus.
Ils essayent de rentrer dans une tente qui est grande comme ce studio. Ils exterminent nos caméras. Et le dresseur vient, il me dit, alors évidemment, je suis complètement idiot. J'aurais dû penser qu'il fait froid, il ne faut pas mettre de tente. Ah, mais bon, d'accord, merci. On fait revenir des caméras. Et... on recommence 2 dimanches plus tard, et là, je mets les caméras devant leur tente où ils habitent. Et il y a toujours la jolie femelle qui barille, donc on enlève les pieux et on les libère, et voilà les 18 éléphants qui cavalent. Mais je les vois très vite se détourner vers la gauche. Ils vont vers quoi? non pas vers leur grande tente qui est leur habitat habituel.
Mais il fallait laisser plus aucune tente dans
une
tout
petite
un
tente
périmètre.
Où il y avait deux jeunes gens qui étaient en train de coudre des poils de yak sur des badiors pour faire leur trompe. On se met à crier, personne dans la tente de maquillage.
Si,
tente...
justement.
Si, il y a nous. Les deux gars sortent et ils sont poursuivis par 18 éléphants, par 18 mammouths. Et ils font un procès à 20th Century Fox. Qui a perdu
donc,
d'ailleurs.
Donc, mais ce film a commencé quand même par un procès à la 20th Century Fox avant que vous ayez les premières images. Mais c'est complètement hallucinant.
Bah, c'est la vie du cinéma. Enfin, la vie que j'ai vécue dans ce métier.
Dans quelques petites minutes sur Europe 1, la suite de la conversation entre Isabelle Morizet et Jean-Jacques Hano. Ce dernier nous parlera de sa collaboration avec Sean Connery, plus facile en principe qu'avec les éléphants.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Europe 1, il est 21h43. Un projet de cuisine, c'est avant tout une histoire de style. Pour trouver le vôtre, pas de panique. Minimaliste, scandinave, industriel ou naturel, toutes les tendances sont chez Ixina. Pour trouver l'inspiration, rendez-vous dans l'un des 150 magasins Ixina ou sur le site ixina.fr. Ixina est la meilleure chaîne de magasins de l'année. Quand Ixina, tout va. Retour dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. On parle d'Aunon de la Rose avec Jean-Jacques Hano.
Alors, cher Jean-Jacques, en vous écoutant, on apprend que l'aventure d'un film est un tel combat qu'il vaut mieux furieusement croire en son sujet. Autre sujet passionnant après la guerre du feu, celui du nom de La Rose, bien sûr, roman de Umberto Eco, qui se déroule dans un monastère en 1327 et qui tourne d'ailleurs autour du livre d'Aristote, qui était un traité sur la comédie et le rire, alors que, à l'époque, le rire, c'était... particulièrement subversif, parce que le rire, en fait, détruisait la peur du diable et du châtiment. Le rire, c'était un blasphème qui abolissait la crainte de Dieu, qui est vraiment l'une des composantes de la foi. Donc, là encore, le nom de la rose, ça a été très, très, très difficile à monter, n'est-ce pas ?
Oui, parce que aux États-Unis, personne ne savait ce que c'était qu'un monastère. Au 14e siècle. Ah oui, c'était tellement loin que d'ailleurs le film n'a pas marché au départ aux États-Unis. Il a fallu des années et des années pour que le film s'implante.
Pour que ça devienne un classique.
Oui, et en France, encore une fois, je n'ai pas pu le monter en France. J'ai été obligé de m'expatrier, comme d'habitude, j'ai envie de dire que c'est l'histoire de ma vie. J'ai été obligé de me transporter, de vivre en Allemagne, car le film, en fait, est un film allemand, en anglais.
Oui.
Je l'ai préparé et terminé à Munich et je l'ai tourné à Rome.
Alors, ça n'a pas été simple non plus d'établir le bon casting, parce que Hollywood ne voulait absolument pas Sean Connery, qui, à l'époque du tournage du Nom de la Rose, était considéré comme has-been, quoi. Il n'avait pas encore été récupéré par Spielberg sur Indiana Jones. Donc, on ne voulait pas Sean Connery.
Pas du tout. C'est absolument... Mais moi-même, je ne voulais pas. Sauf que quand j'ai vu Sean arriver, je me suis dit, il a poussé la porte. Oh ! Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il est beau ! Et quel charisme ce mec dégage ! Et il me dit, il avait le scénario sous le bras, il tire la chaise en face de moi et il me dit, « Listen, boy. » Boy, c'est moi.
Ouais.
Écoute, mon petit. Il ouvre le scénario et il commence à le lire. Moi, ça faisait mon 17e scénario. Je m'étais répété toutes les lignes et je les entendais dans ma tête.
Il les dit comme vous les entendiez, vous les réviez.
J'ai eu la chair de poule. J'ai couru au rez-de-chaussée voir mon producteur. Je lui ai dit, ça y est, on l'a. Sauf que, quelques jours après, mon agent m'appelle. Il me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je dis, commence par la mauvaise. Il me dit, je ne peux plus être ton agent. Et il me dit, la raison, c'est que je deviens président de chez Columbia. Là où tu as ton film, c'était eux qui étaient intéressés. Je file avec mon producteur allemand à Los Angeles.
Oui.
Et cet ami, qui était en plus un excellent francophone, me dit, alors, vous avez pris qui pour le rôle principal ? Je lui dis, Sean Connery. Il devient...
Violet, vert.
Ah oui. Ah, oui. Et pour que mon ami n'entende pas, il me dit, attends, tu es complètement fou. Tu vas bousiller ta carrière, c'est un vieux ringard. Je t'interdis de le faire. Je lui dis, tu m'interdis, on a signé. Il me dit, alors écoute, si c'est vrai, alors il se met à parler anglais. Il dit, est-ce que c'est vrai que vous avez signé Sean Connery ? Oui, dit mon producteur. Il rentre dans son bureau, il sort le contrat, il déchire. Et on a été pendant...
Il faut avoir le cœur franchement bien accroché pour faire
votre métier. Pendant 16 mois, On a démarré le film, alors bravo mon producteur allemand, Bernd Reichinger, le producteur de légende allemand. Ce type, n'ayant pas de financement, sans rien me dire, a vendu tous ses biens, y compris ses maisons personnelles.
Non.
Ouais. Et ma femme, qui est ma script, disait « Il est chiant, Bernd, il est là, toujours à regarder sa montre. » Je lui dis « Attends, il est producteur, c'est normal, c'est un film très cher. » Mais jamais il m'a dit qu'il avait tout vendu.
Bah alors, lorsque Le Nom de la Rose est sorti, il est sorti dans de très nombreux pays, il paraît que la critique italienne a démoli votre film. Est-ce que le Vatican, en fait, avait ses raisons pour cela?
Non, non, non. Le Vatican m'avait banni déjà. Il avait banni le livre, qui était un livre blasphématoire.
D'Umberto Eco, oui.
Je ne pouvais pas tourner dans aucune propriété de l'Église. C'est-à-dire qu'il y avait des nefs qui m'auraient intéressé, des monastères qui m'auraient intéressé. Impossible, c'était interdit. Et ce qui s'est passé en Italie, c'est que j'ai été absolument démoli d'une manière extraordinaire par la critique, à tel point qu'on avait réduit totalement le nombre des salles. Sauf que, finalement, les gens ont eu envie de voir le film. Et ils se sont bousculés tellement dans les salles, dans la salle de Rome et la salle de Milan, qu'ils ont cassé les vitres des cinémas. Et que du coup, il a fallu tirer en panique 300 copies. Écoutez, Le Nom de la Rose, il y a encore 10 ans, était le film le plus vu de l'histoire de la télévision italienne. Et au point que...
Ça a relancé d'ailleurs le roman d'Umberto Eco, qui lui a adoré votre film.
Alors, si vous voulez, il a été d'une courtoisie merveilleuse. Il m'a toujours dit, c'est mon livre, mais c'est ton film. Fais ce que tu veux, si tu veux faire une comédie musicale, t'es le bienvenu. En fait, il était très inquiet de Sean Connery. Et lorsqu'il est venu voir le film, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, ce que tu as réussi le mieux, c'est ce que je craignais le plus. Sean Connery est formidable.
Juste avant de faire une pause, Jean-Jacques Hano, justement, Umberto Eco, lui, était... très ouvert, très compréhensif, mais ça n'a pas été le cas de tous les auteurs dont vous avez adapté les œuvres au cinéma. Je pense à Marguerite Duras qui, juste avant que ne démarre le tournage du film L'Amant, vous a asséné les yeux dans les yeux. Alors je te préviens, c'est mon film, toi tu ne feras que les images.
Oui, tu feras les images, oui. Bah, je lui ai dit non Marguerite, non, je ferai mon film. Et je me suis battu avec elle quasiment tous les jours, sauf qu'il y avait des interruptions où on se bidonnait, mais elle était très drôle aussi, Marguerite. Et puis tout à fait le contraire de ce qu'on imagine, c'est-à-dire que les gens imaginaient cet intellect pur, etc. Non, elle n'était intéressée que par le fric. c'est-à-dire que, si vous voulez, chez elle, il n'y avait aucune décoration, sauf un sous-verre énorme. C'était la double page du Monde montrant le graphique de la courbe de vente de l'amant. La seule décoration sur les murs. Donc, si vous voulez, ça remet les choses en place. Mais c'est bien, ça ne me gêne pas, ça. Parce que, vous savez, Nietzsche dit un truc très bien. Il dit, quand des banquiers se rencontrent, ils parlent d'art. Et quand des artistes se rencontrent, ils parlent de fake.
On retrouve tout de suite Jean-Jacques Hano.
Dans une poignée de secondes, la dernière partie d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Jean-Jacques Hano nous parlera de sa vie en Chine pour la préparation du tournage Le Dernier Loup.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Et on se replonge dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1 pour la dernière partie de cette discussion amicale entre Isabelle Morizet et Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano qui ne prend jamais de vacances.
Cher Jean-Jacques, il y a 7 ans, pour préparer votre film « Le Dernier Loup », vous êtes parti vous établir en Chine. Comment y avez-vous vécu en Chine ?
Magnifiquement. J'ai adoré et je continue à adorer ce pays qui est un pays qui est absolument aux antipodes de l'image qu'il a.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, d'abord, j'ai eu une liberté absolue, et j'insiste sur absolue, parce que sans doute, ils avaient compris, après m'avoir banni de Chine, car j'ai été banni de Chine après avoir fait 7 ans au Tibet, et Brad Pitt l'est aussi. Mais ils sont venus un jour me voir en me disant « Est-ce que vous avez lu un livre qui s'appelle Le Totem du Loup ?» La réponse était oui. Ils me disent « Alors donc, vous seriez d'accord pour en faire une adaptation ?» Je leur dis « Attendez, je ne suis pas la personne, je suis banni de Chine. » On me dit « Non, non, non. » On a besoin de vous, parce qu'on ne sait pas faire ce que vous faites. Et je leur dis, mais attendez, moi, vous savez, ça va coûter très cher, je mets beaucoup de temps pour préparer mes films, etc. Ils me disent, oui, mais justement, on est intéressés. Alors d'ailleurs, on va bien vous regarder, et quand on aura compris comment vous faites, on n'aura plus besoin de vous. Et ça,
ça le mérite
quoi
d'être clair.
Ah, j'ai fait top là, ça m'a plu. Je me suis dit, il y a des gens qui me parlent comme ça, parce que vous savez, les embrassades à Hollywood. Oui. Hey, my friend, are you the best? You're so great, you're wonderful. Mais ils vous oublient la seconde après.
Bien sûr.
Là, attendez, moi, mon téléphone est plein de petits mots charmant de mon équipe chinoise, de mes acteurs. J'ai été complètement ému.
En tout cas, nous, je peux vous assurer que depuis la France, apprenant que vous partiez vivre en Chine, on a eu le sentiment de vous perdre, Jean-Jacques Hano.
Non, je reviens. Je suis français. Vous savez, on est encore plus français quand on est en Chine ou à Los Angeles ou à Montréal, d'où j'ai passé
deux ans. Je sais bien que vous êtes un citoyen du monde. D'ailleurs, vous confessez, je suis un vrai gitan. Ma vie et mon confort tiennent dans mon filofax. Et j'ai toutes mes bonnes adresses dans absolument toutes les villes de la planète. Mais quand vous vous posez, vous le faites où ?
Quand je me pose ? Je viens à Paris.
Est-ce que ça vous arrive de prendre des vacances ?
Non. Ma femme collectionne les photos de moi dans, par exemple, une pirogue sur le fleuve Niger, attaquée par des hippopotames alors que je suis en train de gribouiller sur le livre de Jean de la Rose. Ou quand je vais en vacances, éventuellement, pour faire plaisir à la famille, je me mets en maillot en short et je vais me poser les fesses dans les vagues. Mais j'ai un livre à la main ou j'ai un stylo derrière l'oreille et j'écris une scène. Donc, si vous voulez, c'est... Les vacances m'ennuient parce que ma vie de cinéma, elle est
tellement
rigolote.
Votre imagination n'est jamais au repos. Voilà.
Non, puis je ne veux pas. J'ai la chance d'avoir, depuis tellement de temps, tous les jours sont rigolos, sont différents. Comment dire ? Là, en ce moment, je suis amené à parler de ce livre. Je le fais avec beaucoup de joie parce que je retrouve des gens que j'aime, comme vous. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Moi, ça me touche de revenir. Je redécouvre Paris. Je me dis, qu'est-ce que c'est beau quand même. Mais j'ai la chance d'habiter près du Pont-Neuf, j'ai une maison de campagne dans le Loiret. C'est mes racines. Mais là, j'ai été absent, encore une fois, pendant 2 ans. Je suis revenu seulement 5 jours pour Noël et 2 jours pour le Festival de Cannes des séries.
C'est peu, effectivement. Alors en fait, Jean-Jacques Hano, avec vos films, et je n'ai pas eu le temps, hélas, d'évoquer l'éblouissant Stalingrad, Deux frères, l'or noir, 7 ans au Tibet avec Brad Pitt. Mais avec vos films, vous nous offrez d'autres vies. Et vous nous offrez un supplément de mémoire.
Mais moi aussi, je m'offre d'autres vies. Parce que quand je fais un film comme L'Amant, je suis obligé d'être aristocrate chinois et aussi jeune fille. Je ne suis ni l'un ni l'autre.
D'ailleurs, L'Amant, il y a une anecdote absolument hallucinante que j'ai découverte dans ce livre qui vient de paraître chez Grasset, Une vie pour le cinéma. Votre acteur principal, au début du tournage, lorsqu'il est enlevé carrément, mais il n'ose pas vous le dire parce que sinon on va assassiner son épouse, il est enlevé par les triades, l'épouvantable mafia chinoise qui a décidé qu'il allait partir tourner un film aux Philippines. Et là, tout reste en plan.
Tout reste en plan, oui, parce qu'on on me vole. Et alors que les autorités vietnamiennes mettent des gardes spéciaux, à l'époque, il fallait montrer 7 fois son passeport pour entrer ou sortir du Vietnam. Eh bien, là, les triades, ils sont passés direct. Ils ont fait retarder l'avion et ils ont foutu mon comédien dans l'avion. Quand il est arrivé aux Philippines, la présidente des Philippines a réalisé que c'était la triade, une triade qui était derrière. Donc elle a interdit à l'armée de prêter ses hélicoptères. Du coup, les triades l'ont lâché, lui et Jackie Chan, en plein milieu, sans argent, sans rien et sans passeport. Et cet ami, Tony Leung, c'est son nom.
L'acteur.
Acteur formidable qui est devenu une superstar maintenant, qui est une légende là-bas en Chine, se retrouve sans rien. Il appelle un ami qui lui dit « je vais te prêter mon avion ». Il arrive en Thaïlande, sans autorisation de se poser, il se pose quand même sur une piste en Thaïlande, et il revient en taxi de Thaïlande. Et
pour
le jour
avec
du
vous,
tournage, je vois un taxi arriver de Thaïlande avec mon acteur dedans et je tourne à l'heure.
Jean-Jacques Hano, votre vie est un film.
En tout cas, c'est vrai que le cinéma a enchanté toutes ces années.
C'était merveilleux de vous écouter, vous raconter cet après-midi. On se reverra bientôt, parce qu'il y a encore 1000 choses à évoquer, dont certaines figurent dans le livre qui vient de paraître chez Grasset, Une vie pour le cinéma. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.
Moi aussi, Babel. À bientôt.